Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à 10h.
Votre auto.
François Sorel.
Jean-Luc Moreau.
Il est 7h08. Bon dimanche avec RMC en ce 15 novembre 2020. On est très heureux de vous retrouver. Jusqu'à 10h, c'est votre rendez-vous auto. Avec vos questions en priorité, Charles nous attend. On va l'accueillir dans une minute. Au menu, Jean-Luc, de ses 3 heures d'auto. Plein de bonnes choses. Tout à l'heure, on évoquera une technologie française. C'est une start-up que moi, j'ai eu la chance de découvrir au CES de Las Vegas en janvier dernier, qui en fait scanne les véhicules pour savoir si il y a eu par exemple des petites bosses, des rayures, etc. Et ça fait gagner un temps fou lorsqu'on fait l'état des lieux, lorsqu'on va louer une voiture. Et
complètement, mais même pas pour louer une voiture, ça peut servir aussi pour une expertise.
Bien sûr.
Hein, il faut 3 secondes à ce portique.
C'est génial.
Pour scanner la voiture et le portique vous dira s'il y a une déformation générale de la carrosserie, puis il scannera également toutes les petites bosses, tous les défauts de la voiture par rapport, on va dire, au gabarit initial. Mmh. Donc on va pouvoir gagner énormément de temps, on va pouvoir gagner de l'argent, ça va être plus simple. Et surtout, ça va être, on sera sûr de l'expertise, parce qu'un expert humain, il est humain.
Ouais. Donc, et puis vous rendez-vous compte, hein. Alors à l'époque où on pouvait louer des voitures, c'était ça remonte à un siècle, mais c'est quand même génial le fait de plus faire la queue. Voyons, on va gagner en fluidité aussi, hein. Le parcours client va être complètement changé. Notre bon plan sécurité dans quelques instants. Que se passe-t-il si on a un accident avec un cycliste? Ce qu'il faut savoir. Notre minute verte, quels sont les constructeurs auto les moins émetteurs de CO2 en France?
Avec une petite surprise, tiens, d'après vous, c'est quel est le constructeur qui, en France, pour l'instant, est sur la plus haute marche du podium?
Ah, c'est Toyota.
Alors non.
Tiens.
Mais je vous dirais oui. mais non.
Suspense.
Non, mais c'est pas le Toyota, suspense. Mais je vous expliquerai pourquoi ça devrait être Toyota.
Il a failli bugger, Jean-Luc Moreau. J'ai vu son regard.
Non, mais c'est un constructeur japonais.
Oui.
Vous aviez déjà au moins la moitié de la réponse bonne.
Bah alors si c'est pas Toyota, c'est Honda.
Tout à l'heure, non, perdu.
Même pas.
Ah, bah,
ah là là.
Encore une chance et après un gage.
L'essai de la semaine, ce sera la Skoda Superb 4. La nouvelle hybride rechargeable donc de chez Skoda. Notre question pas si bête. Combien de conducteurs ont leurs 12 points en France? Bah déjà, il n'y en a que un dans ce studio. On ne va pas vous dire lequel.
C'est pas beau de balancer. Mais il y en a un qui ne roule pas. Alors forcément, c'est plus simple d'avoir 12 points quand on ne roule pas. Hein.
Notre rendez-vous sur le vif, est-ce que ça vaut le coup en cette fin d'année 2020 d'acheter un nouveau véhicule, un véhicule neuf? C'est vrai que...
Ouais, vous savez que tous les ans à cette époque-là, je vous dis, c'est le moment de faire de bonnes affaires.
Tout à fait.
Mais parce qu'en général, il y a le nouveau malus. Alors, dans un premier temps, le gouvernement avait dit, on va prolonger les bonus jusqu'au mois de juin. Et puis, le malus devait s'appliquer au 1er janvier. En fait, ils ont tout mis en fait, au mois de juin. Donc, le malus s'appliquera également au mois de juin. Donc, cette barrière du 1er janvier qui fait que d'habitude, les gens se décident au mois de décembre pour ne pas avoir un malus plus fort. Parce que le malus, c'est rare, il baisse rarement.
Hein. Ouais,
il augmente au 1er
janvier. En général,
il augmente au 1er janvier. Donc là, il y a d'abord la crise sanitaire. Les gens ne vont pas dans les concessions. Ils ne peuvent pas y aller. Elles sont ouvertes, mais pour la livraison des voitures. Donc, il y a ça. Il y a le report de toutes ces mesures au mois de juin. Est-ce qu'on va quand même faire des bonnes affaires? Je vais vous donner un petit indice. Il y a 620 000 voitures en Europe qui doivent partir avant la fin de l'année obligatoirement.
600 000 voitures
qui doivent partir obligatoirement avant la fin de l'année.
Ça va être le déstockage massif.
Il y aura du déstockage et on va tout vous expliquer tout à l'heure.
Ça va être le click and collect, j'ai l'impression. Vous avez vu, tout le monde parle de click and collect en ce moment.
Oui, click and collect avec une voiture, c'est pas facile.
C'est
quand
pas
même.
Facile.
Il vaut mieux aller la voir avant de l'acheter.
Bah, vous savez qu'était ça, c'est un peu ça. Hein. Vous cliquez sur vous achetez votre voiture et puis après vous allez la prendre.
Oui, mais vous pouvez quand même aller essayer une Tesla avant.
Ah oui, heureusement, bien sûr. Voilà le menu de ces 3 heures d'auto, comme tous les dimanches. En priorité, vos questions, bien sûr, c'est ça le plus important. Vous pouvez joindre Jean-Luc au 3216. L'appli RMC Direct Studio. Avec votre smartphone, vous posez votre question, vous nous laissez votre numéro de téléphone, on peut vous rappeler très vite. Vous savez tout, bienvenue, c'est parti et on attaque avec Charles qui est là. Bonjour Charles.
Oui, bonjour.
Bonjour Charles.
Alors je vous appelais pour une petite question.
Ça tombe bien.
Ça tombe bien. On est là pour. Il est là pour ça. Non, parce que imaginez, vous me dites, on appelle pour, je sais pas moi, par exemple,
pour
une
réserver
blague.
Une table à midi.
Oui, réserver une table. Ouais, bon, déjà, c'est compliqué. Ou alors, vous pour nous raconter une blague. Ça aurait été surprenant.
Bah, remarque, ça ferait une bonne blague au moins. Non,
bah, c'est pas sûr.
Ah, oui, c'est pas sûr.
C'est pas sûr. Ouais. Vous nous appelez d'où, Charles ?
De Bordeaux.
De Bordeaux. Très bien. Eh bien, écoutez, on vous écoute. On écoute votre question.
Voilà, j'ai un Mercedes 220E. De 94. Oui. Il y a 78 000 kilomètres.
Ah, mais vous roulez pas. Vous roulez pas du tout. Vous l'aviez achetée neuve, la voiture ?
Non, je l'ai achetée il n'y a pas longtemps.
D'accord. Elle n'a pas un tour de compteur en plus, par hasard ?
Non, parce qu'elle a tout l'historique.
D'accord.
De chez Mercedes, après tout, voilà. Et en fait, j'avais la même auparavant.
D'accord.
Mais en 10 chevaux. Et celle-ci, comme elle est en boîte auto, elle en fait 14.
Ouais.
Et c'était pour savoir si je pouvais la passer à l'éthanol.
Ah. Alors, les véhicules d'avant l'an 2000, si certains sont compatibles avec l'éthanol, pas tous. Donc il y a toujours un risque. Il faut en fait, il faut aller consulter le site www.bioéthanolcarburant.com. Là vous verrez les compatibilités. Je ne pense pas. En plus, mettre un vieux véhicule. Alors là, le vôtre a pas beaucoup de kilomètres. C'est ça que ça me paraît quand même très étonnant que un véhicule de 1994 n'ait que 80 000 kilomètres. Voilà.
Oui.
Moi je trouve ça surprenant. Méfiez-vous. Vous l'entendrez tout à l'heure, on va en parler dans l'actualité. Les bagnoles allemandes, c'est celles qui se bidouillent le mieux au niveau des compteurs kilométriques. Alors donc, vous me dites, j'ai un historique complet, il n'y a pas de trou dans l'historique.
Non, elle a été achetée à Montauban.
Oui.
Au concessionnaire Mercedes de chez Montauban, et elle a resté à Montauban
tout le temps.
Jusque que je l'achète.
D'accord. Et vous avez l'historique complet? Avec le kilométrage qui augmente progressivement sans qu'il y ait à un moment quelque chose de bizarre.
Non.
Bon, bah, vous avez fait une bonne affaire alors.
Oui.
Vous avez fait une bonne affaire. Mais bon, la passer à l'éthanol, oubliez. Oubliez.
D'accord.
Oubliez parce que c'est un trop gros risque pour un véhicule comme ça. Il y a beaucoup de gens qui, aujourd'hui, en voyant les prix, c'est vrai, en voyant les prix de l'éthanol, moi j'en ai à côté de chez moi à 66 centimes, il y a des gens qui en ont à moins de 50 centimes. Les stations les moins chères en France, c'est 49 centimes. On se dit, tiens, youpi, je vais mettre de l'éthanol. Alors boîtier pour votre véhicule, est-ce qu'il y en a ? Oui, je pense que oui. Mais ça va vous coûter aux alentours de 1000 euros pour rentabiliser ça. Je ne sais pas si vous roulez plus que le propriétaire précédent, mais vu le kilométrage de la voiture, vous roulez beaucoup d'ailleurs, Charles ?
Oui, moi je m'en sers quotidiennement, je fais à peu près 15 à 20 000 par an, parce que j'en avais une avant.
D'accord, oui, 15 à 20 000 par an, ouais, non. Avant de rentabiliser le boîtier, il va vous falloir un petit moment, ça c'est le premier truc. Et la deuxième chose, c'est que des voitures très anciennes, le passage à l'éthanol, il y a toujours un gros risque. Donc moi je vous déconseille de faire ça.
D'accord.
Voilà.
Bon. Voilà, Charles.
Parce que vous savez, un joint qui se désagrège, une durite qui se désagrège à cause de l'éthanol, ça peut provoquer un incendie. Ça peut être grave. Hein. Ça peut être grave.
Alors, votre véhicule... On m'a dit que l'éthanol était agressif, qu'il pourrait désagréger les durites qui sont en caoutchouc.
Ouais, c'est exactement ça. Il faut des durites spéciales. D'accord. Qui soient adaptées à l'éthanol. Alors, est-ce que votre voiture en a ? Peut-être, mais je vous avoue que j'en sais rien. Et puis, vous aurez du mal à trouver l'information en plus. Donc, à partir du moment où on a un doute, ben, on le fait pas.
D'accord, ok.
Voilà.
Bon, voilà. Je vous remercie.
Bah, bonne journée, Charles. Au revoir.
Bonne journée, au revoir.
À bientôt, Charles. Et si, tout comme Charles, vous voulez poser votre question. Bon, Charles est un peu déçu, mais c'est normal.
Ah oui, mais je vais pas lui conseiller de rouler à l'éthanol.
Non,
voiture, elle traîne feu dans 10 000 km.
Oui, et puis c'est embêtant, surtout pour une Mercedes.
Oui, non, enfin, une Mercedes,
toutes les voitures,
brûle aussi bien qu'une autre voiture.
Jean-Luc. Que diriez-vous maintenant de retrouver notre bon plan sécurité ? Est-ce que vous êtes prêt ?
Bah yes.
Allez, on y va.
RMC, votre auto.
Et Daniel, explique-moi, c'est quoi le plan là ?
Le bon plan sécurité.
Et ce plan génial, messieurs, essayez.
Jean-Luc Moreau.
Alors Jean-Luc, on le sait, le vélo, c'est bon pour l'environnement. C'est aussi bon pour la santé, du moins lorsqu'on ne se fait pas écraser. Car la situation ne cesse d'empirer.
Effectivement, François, il faut savoir que la mortalité des cyclistes est en hausse continue depuis plusieurs années. Il y a eu 197 tués en 2019. c'est 34% de plus qu'en 2010. C'est évidemment lié à l'augmentation du nombre de cyclistes et aux interactions avec les autres véhicules.
Alors, en cas d'accident avec une voiture, par exemple, c'est vrai qu'on se pose tous cette question. Qui est responsable? Alors,
vous allez voir que c'est compliqué, hein, parce qu'il y a la loi Badinter du 5 juillet 1985 qui offre une protection importante aux personnes à vélo. Le cycliste n'est pas le conducteur d'un engin à moteur, donc il fait partie des victimes protégées, comme les piétons, et c'est sans restriction. À tel point que pour que la responsabilité du cycliste soit totalement engagée, faudra prouver que sa faute est inexcusable et sa faute est la cause exclusive de l'accident. Ça va pas être simple. Alors en 1990, la Cour de cassation a retenu pour la première et unique fois une faute inexcusable et exclusive pour un cycliste ayant circulé, tenez-vous bien, en sens interdit sur un boulevard et grillé un feu rouge à une intersection. Donc voilà, là on a considéré qu'il était responsable. Mmh. Cela dit, si vous circulez en VTT de nuit sur une autoroute, c'est pas considéré comme une faute inexcusable. Voilà, même si vous n'êtes pas éclairé, même si les juges estiment quand même que cette faute présente une gravité certaine, circuler en état d'ivresse n'est pas considéré comme caractérisant la faute inexcusable, même si le cycliste a commis d'autres fautes en effectuant un changement de direction à gauche alors qu'un véhicule venait en sens inverse. Et encore, ça ne s'applique pas si la victime est âgée de moins de 16 ans, de plus de 70 ans ou atteinte d'une incapacité permanente ou encore d'une invalidité au moins égale à 80%.
Jean-Luc, ça veut dire que le plus souvent, aucune faute ne sera retenue contre le cycliste accidenté, quelle que soit l'importance de son imprudence ou de sa maladresse,
oui,
on est d'accord.
C'est surtout la responsabilité de l'automobiliste qui sera recherchée et son assurance sollicitée. La raison, il doit en toutes circonstances, vous savez, c'est le fameux rester maître de son véhicule. Une exigence qui ne vaut pas pour le cycliste, avouons que c'est plus facile à dire qu'à faire, en particulier pour les chauffeurs de poids lourds ou de bus qui n'ont pas forcément une visibilité totale de ce qui se passe dans les angles morts. Il y a d'ailleurs beaucoup de cyclistes qui sont renversés par des bus, ce qui ne signifie pas que les conducteurs sont des assassins en puissance, c'est souvent le cycliste qui provoque l'accident.
En revanche, les cyclistes sont tenus de respecter certaines règles, faute de quoi ils peuvent être verbalisés.
Ouais, on va le rappeler, hein. Interdiction de porter tout dispositif susceptible d'émettre du son à l'oreille, donc le casque audio pendant que vous faites du vélo, eh ben, c'est un PV à 90 euros. On doit obligatoirement avoir une sonnette sur son vélo. C'est un timbre ou un grelot. Hein. Pas de clochette, de sifflet ou de trompe comme François qui a mis la cucaracha sur sa bicyclette. Les catadiopes, on va le rappeler aussi, sont obligatoires. Les feux sont obligatoires. La lumière est obligatoire. La nuit, alors un feu de camp, ça ne compte pas, je vous le rappelle aussi.
Ça, c'est
et puis,
bien.
Le gilet est obligatoire pour les cyclistes et leurs passagers circulant de nuit hors agglomération ou le jour en cas de mauvaise visibilité. Allez, on va être honnête, un cycliste sur deux ne respecte pas ces règles.
Bien sûr.
Ils prennent aussi des gros risques. Moi, à chaque fois que je circule en Paris, j'en vois, ils grillent tous les feux, c'est pas compliqué. Et vous savez, griller un feu quand un bus ne vous a pas vu, on a tout perdu, hein.
Non, mais
parce qu'entre un vélo et un bus, le gagnant, on sait qui c'est. Hein.
Je sais que vous avez une histoire à raconter. Moi, cette semaine, pas plus tard que cette semaine, je roulais en voiture. J'allais évidemment à 30 km/h très doucement. Et là, je vais tourner à gauche, donc, parce que j'ai pas le choix, c'est comme ça. Et je me retrouve avec un cycliste qui était à fond en face, en sens interdit, puisque la route que je prenais sur la gauche n'était qu'en sens unique. Et en fait, j'étais obligé de piler. Il y a même l'ABS qui s'est mis en route parce que j'étais obligé de piler. Autrement, je l'écrasais. Mais voilà, c'est-à-dire que là, dans ce cas précis, c'est plutôt grave pour lui parce que moi, au pire, qu'est-ce qui se passe? Je vais le taper. Bon, voilà, je vais être embêté un peu par la police, etc. Il y a l'assurance qui prendra le relais, mais lui risque
Il
risque sa vie parce que moi, je suis beaucoup plus protégé que lui.
Vous avez entendu en 10 ans plus 36% de mortalité pour les cyclistes.
Mais c'est dingue.
En fait, la plupart du temps, ils font n'importe quoi. Alors, je conçois que c'est compliqué de s'arrêter au feu rouge et de redémarrer.
Non, mais en sens interdit, à fond, au milieu de la voie, alors que vous savez qu'il n'y a pas de visibilité, qu'il y a un véhicule qui peut arriver sur la droite, c'est quand même dangereux, quoi.
Ouais, enfin, moi, j'ai
évidemment, pas de casque, rien du tout. Bref.
Moi, j'ai suivi un cycliste, il a grillé 25 feux. On est arrivé, en fait, aux portes de Paris en même temps. J'étais en scooter, je rattrapais à chaque fois entre deux feux rouges. Il a grillé 25 feux rouges.
C'est pas mal. Oui. Bon,
aurait suffi qu'il y ait un camion qui ne le voit pas au moment où il traversait le carrefour, il était mort.
Bah, il était grillé lui aussi.
Oui, il était grillé.
Jean-Luc, on revient dans un instant, 7h22. Que nous prévoit la météo de ce dimanche? Claire Navarro va tout nous dire. Et puis on reviendra avec vos questions auto au 32-16. notre minute verte. Quels sont les constructeurs auto les moins émetteurs de CO2 en France? Et puis n'hésitez pas, hein, 3216, l'appli RMC Direct Studio. Vous pouvez à tout moment nous appeler pour poser vos questions, pour réagir au sujet qu'on évoque avec Jean-Luc. À tout de suite.
RMC jusqu'à 10h.
Votre auto.
François Sorel.
Jean-Luc Moreau.
Voilà, 7h27, on est de retour, le week-end des experts. C'est l'automobile, bien sûr, avec Jean-Luc qui répond à toutes vos questions. N'hésitez pas, 3216, l'appli RMC et Direct Studio. Jean-Luc, dans quelques instants, notre minute verte, on s'intéressera aux constructeurs auto les moins émetteurs de CO2 en France. Mais auparavant, le retour de vos questions. David est là.
Oui, bonjour.
David de l'Essonne. Bonjour, David.
Oui, bonjour.
Bonjour, David.
Bienvenue.
Merci.
On vous écoute, David.
Alors, moi, je vous appelle parce que j'avais eu un petit retour. Ma femme est infirmière libérale, c'est pas moi. Hein.
Bon, voilà. ça nous manquait, on n'en a pas eu la semaine dernière. En
mais
plus.
Là, elle travaille. Bon, là, donc, j'appelle pour elle.
Ouais, par procuration, alors. D'accord.
Voilà. Donc, je l'ai conseillé, en écoutant tous vos conseils, de prendre un CHR Toyota, qui est très
d'accord.
Bien.
D'accord.
Le seul souci, c'est qu'on a eu des pneus. Et les 18 pouces font à peu près 25 km sur les CHR Toyota.
Ah oui, mais vous écoutez pas attentivement si. Tout ce que je raconte.
Ah si, si.
Non, mais vous avez pris une finition plus haute et il y avait obligatoirement les routes 18, c'est ça?
C'était une voiture qui était en stock et comme il ne restait plus qu'une voiture, on était embêté et ça arrivait en 3 semaines. Donc voilà, par contre, impeccable.
Oui, mais bon, je répète pour tous ceux qui nous écoutent avant qu'ils fassent un achat, les grosses roues c'est joli et ça s'arrête là. Après, c'est les pneus, ils coûtent deux fois plus cher, ils s'usent plus vite, vous consommez plus. Aujourd'hui, vous payez un malus. Bon là, en l'occurrence, il y a pas de malus sur ce véhicule-là, mais sur certaines voitures, le fait d'avoir des pneus d'un diamètre plus important et donc d'une largeur aussi plus importante, ça va augmenter la consommation, donc augmenter les émissions de CO2, donc augmenter le malus. Donc il y a en fait que des désavantages à prendre des gros pneus.
Que ça.
Et ça dégrade le confort. Et ça dégrade le confort, ce qui est quand même le principal des avantages.
C'est ce que j'allais dire, ça dégrade le confort, mais les suspensions sont assez bien faites sur le CHR et ça passe quand même.
Oui, il a été. Ouais. Et encore, il n'a pas été calibré assez souple, à mon goût. Perso, ils auraient dû.
Je suis d'accord. Ouais, voilà, je suis d'accord.
Sur des voitures hybrides, on cherche pas la performance. Et le CHR au départ, ils ont voulu le typer un peu plus sport qu'une Prius.
Oui.
Sur la transmission finale, par exemple, le rapport de démultiplication finale, il est un peu plus faible que la Prius, ce qui fait que l'effet de patinage est plus fort que sur une Prius 4.
Oui.
Et puis, suspension, ils auraient dû assouplir un petit peu.
En même revanche, que sur une Prius 3, je dirais, parce que nous on a une Prius 3 et elle est beaucoup plus agréable à conduire que le CHR au niveau de la démultiplication en tout cas.
Mais c'est une erreur qu'ils ont.
Et les pneus font 80 000 km.
Et oui.
Donc alors le souci, moi c'était pas ça, c'était on va chez un changeur de pneus, je sais pas si je peux dire la marque.
Allez-y.
Voilà, Noroto La Forêt.
D'accord.
Donc moi j'ai pas pu aller, je dis à ma femme, tu dis bien, tu mets les pneus avant à l'arrière, enfin les pneus neufs à l'arrière.
Ouais.
Elle y va. Rendez-vous 16h, prix 17h02. Donc ils se dépêchent et ils disent non, on peut pas faire ça parce qu'il y a des capteurs de pression sur les pneus.
On peut pas faire.
Si on peut parce qu'ils sont pas. Ça donne pas roue par roue quand il y a un pneu dégonflé, donc faut vérifier les quatre. C'est pas comme sur une Renault de 2004, par exemple, où ils disent parce que moi j'avais une Laguna de 2004.
Ouais, c'est vrai que sur les Renault anciennes, c'est vrai qu'on pouvait pas intervertir les roues.
Voilà. Alors, par contre, on pouvait faire en mettant devant derrière, en sachant où est la roue, et puis c'était à nous de réfléchir après.
Peut-être qu'ils avaient pas, ils étaient pas équipés pour réfléchir, les gars qui vous ont fait le montage. Mais de toute façon,
en fait, je pense qu'ils étaient pressés, ils ont pas voulu le faire. Parce qu'ils ont dit à ma femme, les pneus arrière sont neufs, 30 000 km, c'est pas neuf. Donc moi,
vous venez de me dire, on est obligé de les changer au bout de 30 000 km. Alors les pneus arrière à 30 000 km, ils ont forcément
ils sont à moitié
de l'usure.
Donc moi je les ai rappelés lundi matin en disant je veux un rendez-vous demain pour changer les roues. Il me dit bon, ils m'ont refait le même truc. J'aurais expliqué que non, et j'aurais dit écoutez, dimanche j'ai un rendez-vous à la radio avec Jean-Luc Moreau sur RMC. Ils m'ont dit bon ben 9h ça vous va? J'y suis allé, ils m'ont fait ça, ils faisaient un peu la tête, ils m'ont échangé l'avant arrière et tout est rentré dans l'ordre.
Ben voilà.
Par contre pas de geste commercial, pas d'excuses. Ils m'ont dit à bientôt. Ouais. J'ai pas répondu, je pense que j'irai ailleurs.
Ben voilà. Alors on va pour ceux qui nous écoutent. Alors c'est vraiment symptomatique votre histoire, mais vous savez, ça m'est arrivé à moi aussi. Ça m'arrivait à moi aussi, où ils voulaient pas monter les pneus neufs derrière.
Ouais,
quand
ils
même,
veulent pas. Ouais.
Ah ouais, non, mais c'est hallucinant. Donc, en plus sur une voiture où il y a pas de capteur sur les pneus, c'est juste parce que ça leur fait du boulot en plus.
Ouais, mais c'est ça, du boulot en plus.
Mais c'est ridicule parce qu'ils le facturent le boulot. Donc
voilà, c'était gratuit. Donc en raison de plus, c'était compris dans le truc.
Ouais. Alors, il faut savoir que même les valves peuvent être interverties et il faut réinitialiser. Sur le calculateur, on réinitialise pour la position des valves sur la voiture. Quand
mais
vous
oui,
avez des valves
faire,
qui communiquent,
bah,
bien sûr que si. Attendez, heureusement qu'ils sont équipés. Mais je crois juste qu'ils veulent pas s'emmerder.
Ils
on va dire
pas,
le mot.
Oui,
voilà, c'est ça.
Plus, ouais.
C'est ça.
Ouais.
Et c'est pareil. Hein. Quand on fait changer ses pneus, moi ça m'a fait râler aussi. Je me suis fait avoir la dernière fois. Figurez-vous, j'ai fait changer mes pneus. J'avais dit vous me changez bien les valves. Et ben ils m'avaient pas changé les valves. Donc il faut redémonter les pneumatiques. En plus j'ai une valve qui fuit. Vous voyez, c'est n'importe quoi.
Ouais, bah après moi j'ai pas pu contrôler. Ça, parce qu'on voit pas l'extérieur.
Mais non, mais on voit.
Mais
évidemment. Et puis au moment où on récupère sa voiture, on n'est pas en train de scruter précisément tout
regardé,
ce qui a été fait.
Mais je voyais pas. Donc les valves.
Mais vous savez, sur le montage des pneumatiques. Alors là, tiens, bah, je vais me faire des amis. Je pense que c'est le plus mauvais service qu'on peut trouver. Alors je vais mettre les centres auto et les centres spécialisés. Hein. J'ai fait changer le pneu arrière de mon scooter. Ils me l'ont monté à l'envers. Il y a pourtant une flèche. Il y a pourtant une flèche qui indique la chance de rotation. Et ben ils ont trouvé le moyen de me le monter à l'envers quand même. On est dans un monde où les gens n'ont plus aucune conscience professionnelle. Donc il faut
c'est
au
pas
moment
des mécanos de toute façon là-bas.
Ben c'est ça. En plus il y a un turnover énorme dans les centres.
Après je pense qu'il y a aussi une pression de la part de tous ces employés qui doivent faire un maximum de choses, enfin
évidemment.
Ils sont pressés. Alors, avec une rentabilité qui doit être terrible.
La sécurité des pneus quand même c'est
Ouais. Non mais c'est sûr.
Mais ils n'ont pas non plus de conscience professionnelle parce qu'on peut avoir de la pression.
C'est vrai qu'après quand ça joue sur la sécurité du véhicule.
Oui, de la pression pour les pneus en plus
pression pour les pneus, voilà, c'est exactement ça. Mais moi, j'ai à chaque fois que je fais changer des pneus, j'ai beaucoup de voitures, donc ça m'arrive souvent. À chaque fois, j'ai un emmerdement.
Il y a un problème.
Voilà.
Ouais.
Donc on est aujourd'hui, il va falloir remettre un peu d'ordre là-dedans. On en reparlera,
après,
tiens, d'ailleurs.
Euromaster ont l'air plus sérieux que les autres. Bon, après,
vous savez, le coup, je racontais tout à l'heure où ils voulaient pas mettre les pneus neufs derrière, c'était Euromaster. Hein.
Et puis,
ils m'ont cassé un goujon en remontant la roue.
Au pistolet.
Voilà, au pistolet. Les pistolets sont calibrés à 10 bars et les goujons sur une Toyota, ils aiment pas 10 bars, hein, donc ils cassent.
Ouais.
Après, je pense pas que ce soit lié à une enseigne. Hein. Tout dépend après des gens qui y travaillent.
Oui, ça dépend des gens qui y travaillent. Exactement.
Ça peut être n'importe quelle enseigne.
Vous avez certains spécialistes, vraiment spécialistes du pneu, qui sont. Alors, j'en connais un. Tiens, heureusement, j'en connais un. Maintenant, je pense que je vais changer tous mes pneus là-bas. Il y a heureusement des gens. Il y a des gens très sérieux. Et à côté de ça, il y a des gens pas du tout sérieux. Donc il faut arriver à trouver un très sérieux. Alors c'est quand même un peu le parcours du combattant, malheureusement.
Bah après, il y a Internet pour trouver aussi avec les avis. Ça peut être pas mal. Ouais.
Alors,
mais bon, comme je pense que, comme vous dites, ils travaillent à la chaîne, ils regardent plus ça que. De toute façon, ils auront toujours du monde, ils savent. Hein. Donc, bon, c'est à nous de chercher. Et moi, je sais que j'ai un petit. Quelqu'un qui change les pneus sur Bondouf dans l'Essonne pour les motos, et il est très, très, très bien. Mais alors, pour les voitures, faut que je retrouve.
Ben voilà. Bon, ben si vous trouvez, David, vous nous appelez, puis on fera profiter les auditeurs.
Ouais. Ben,
merci, David.
Merci beaucoup. Je vous souhaite
bientôt.
Une bonne journée.
Mais vous aussi.
Merci, au revoir.
Vous aussi.
Merci, au revoir.
7h35, Jean-Luc, notre minute verte.
RMC, votre auto.
La minute verte.
Alors Jean-Luc, on va parler de ces constructeurs auto les moins émetteurs de CO2 en France.
Alors pourquoi ça compte le CO2? Ça compte parce que l'Europe a fixé une barre à ne pas dépasser, la moyenne de la gamme de chaque constructeur ne devra pas excéder 95 grammes par kilomètre de CO2. C'est très contraignant, 95 grammes par kilomètre.
Et s'ils dépassent, ils ont des amendes.
Ils ont des amendes énormes. Donc les constructeurs, c'est pour ça qu'ils se sont lancés avec force dans la diminution des consommations sur les voitures thermiques et surtout la commercialisation de véhicules électriques.
Parce que ça fait baisser leur moyenne, effectivement, l'électrique.
Je vais vous expliquer pourquoi ça fait baisser fortement la moyenne. Alors, dans ces constructeurs qui sont vertueux, on va mettre de côté les constructeurs de voitures électriques. Parce que Smart, qui ne vend plus que des voitures électriques, est à zéro.
Et oui, forcément.
Tesla, qui n'a jamais vendu que des voitures électriques, est à zéro, forcément. Mm-hmm. On va dire que ceux-là, ils sont disqualifiés, entre guillemets, dès le départ. Sinon, le constructeur le plus vertueux, avec des guillemets, je vous explique pourquoi je mets des guillemets, parce qu'on développera tout à l'heure en France, c'est alors un constructeur japonais. Tiens, allez, allons-y. Tiens, on va faire tout à l'heure, on m'a dit Toyota, c'est pas Toyota.
Non, Honda.
C'est pas Honda. C'est un constructeur qui a sorti il y a déjà très longtemps un modèle de SUV hybride rechargeable qui s'est très bien vendu, qui a été l'hybride rechargeable le plus vendu en Europe d'ailleurs.
D'accord.
Et qui vend en France 47% de véhicules qui sont hybrides ou hybrides rechargeables.
Alors attendez, c'est où?
Ça commence
c'est Mitsubishi
par... Exactement.
Mitsubishi,
c'est
bah
Mitsubishi qui s'en sort le mieux avec 77 grammes par kilomètre depuis le début de l'année. En deuxième, c'est une marque française, c'est DS. Et vous allez voir que les Français sont pas mauvais. Ils sont à 78 grammes par kilomètre pour les mêmes raisons, c'est-à-dire qu'ils vendent beaucoup de véhicules hybrides rechargeables. C'est 20,2% des immatriculations et 14% en tout électrique également depuis le début de l'année. Ensuite, la troisième marque la plus vertueuse, c'est Hyundai, avec 87 grammes par kilomètre. Eux, ils vendent 12% de diesel, 32,8% d'essence dans le mix, mais ils ont aussi beaucoup d'électriques et beaucoup d'hybrides rechargeables. Le top 5, c'est Peugeot qui arrive cinquième avec 90 grammes par kilomètre, toujours pour les mêmes raisons. Alors pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que je mettais des guillemets pour ces constructeurs les plus vertueux? Tout d'abord parce que on sait que les émissions retenues pour les véhicules hybrides rechargeables sont très loin de la réalité. On va prendre l'exemple du Mitsubishi Outlander hybride rechargeable, il est donné pour une consommation, alors en cycle WLTP, de 2 litres au 100 et des émissions de 46 grammes par kilomètre de CO2. Bon, on se doute bien que pour un engin de 1890 kilos, alors certes, on va faire les 35 premiers kilomètres en électrique si on recharge la voiture. On n'est pas obligé de recharger la voiture.
Elle peut se recharger.
Voilà, mais dans la réalité, on ne sera jamais à une consommation de 2 litres au 100. Ça n'existe pas, même si on a rechargé la voiture et qu'on roule en hybride en permanence. Donc, il y a déjà cette homologation qui favorise outrancièrement les hybrides rechargeables. C'est pour ça que tous les constructeurs ont des hybrides rechargeables. Ensuite, il y a l'impact des véhicules électriques. Pourquoi l'impact? Parce qu'aujourd'hui, un véhicule électrique, il est compté deux fois. Il y a ce qu'on appelle un double comptage. À chaque fois que Renault vend une Zoé, on lui compte deux fois la Zoé dans sa moyenne d'émission en fin d'année. Donc évidemment, c'est comme s'il vendait deux fois plus de véhicules électriques. Donc ça fait baisser aussi de façon significative.
C'est un bug ou c'est un bonus?
Non, c'est un bonus qu'on accorde aux constructeurs qui font des véhicules électriques pour les inciter justement
à aller
vers l'électrique. Mmh. C'est ce qui me fait dire que de toute façon, vu que c'est à marche forcée, l'électrification du marché va arriver.
Nécessairement, va se faire.
Nécessairement, voilà. Déjà, parce que c'est pas une mauvaise solution, contrairement à ce qu'on peut entendre en ce moment. Vous pourrez voir sur Internet, il y a plusieurs documentaires qui sont proposés sur est-ce que l'électrique c'est polluant ou pas. Alors ça me fait rigoler parce qu'à chaque fois on ramène
la batterie.
Sur le devant de la scène, effectivement, la batterie, on l'a évoqué il y a pas longtemps avec Nawa Technology, les problèmes qui existent aujourd'hui sur les batteries, parce qu'il faut pas se voiler la face, il y a des problèmes aujourd'hui de matériaux qui sont polluants et enfin dont l'extraction est polluante qui sont utilisées dans les batteries. Ce problème, il est déjà réglé sur les futures générations de batteries qui arrivent. Donc de dire on va acheter le bébé avec l'eau du bain en disant le véhicule électrique c'est plus polluant qu'un véhicule thermique, c'est pas vrai. Même si on considère les émissions de CO2 avec de l'électricité polonaise, ça reste quand même moins polluant qu'un véhicule thermique équivalent. Donc, en fait, c'est un faux débat. D'autant que les progrès du véhicule électrique sont bien plus rapides que les progrès du véhicule thermique. Donc, inéluctablement, si cette émission durait encore très longtemps, je pense qu'on pourrait, dans quelques années, expliquer que, effectivement, le virage de l'électrique a été pris et qu'on sera à 50% du parc, je pense. Alors, ça va prendre du temps, ça sera pas avant, à mon avis, 2040, mais la moitié du parc sera électrique à cette période-là.
Oui, entre les incitations donc pour les constructeurs et puis aujourd'hui les interdictions bientôt du diesel dans les grandes villes.
Oui, on en parlera tout à l'heure. Tiens, les taux se resserrent.
Ouais, c'est sûr.
Mais il faut 25 ans pour renouveler un parc. Hein. Donc les errements du diesel pendant 15 ans, on va les payer encore pendant 15 ans.
Mais c'est ça. 7h41, Jean-Luc, on va revenir dans un instant pour la suite de ce week-end des experts auto avec Romain. Qui aimerait avoir des news concernant la nouvelle Tesla modèle Y et puis à tout moment pour nous joindre 32-16 l'appli RMC Direct Studio. On est là dans une minute, à tout de suite.
RMC jusqu'à 10h,
votre auto.
François Sorel,
Jean-Luc Moreau.
8h moins le quart, un petit peu moins, en ce dimanche matin. Merci d'être avec nous sur RMC. Et jusqu'à 10h, c'est votre auto. N'hésitez pas à nous appeler pour poser toutes vos questions. Jean-Luc est là pour ça. Et on attaque, écoutez, cette dernière ligne droite de cette première heure avec Romain, qui est de Chanona. Bonjour Romain. Bonjour Romain.
Bonjour Romain.
Oui, bonjour.
Bonjour Romain. Tout va bien ?
Oui, tout bien, tout bien.
On vous dérange pas, ça va ? Ce dimanche matin, tout se passe bien, ça va ?
Ouais, je suis entre deux patients, vous voyez.
Entre deux patients ?
D'accord, voilà. Vous faites quoi comme métier ? C'est pas indiscret.
Infirmier.
Notre infirmier libéral du dimanche.
Voilà, et d'ailleurs, je passe un petit bonjour à Nadine.
Nadine ?
Parce que j'y pense rarement et voilà, on en parle beaucoup de RMC avec Nadine, donc voilà. Un coucou à Nadine.
Nadine qui est aussi comme vous, infirmière libérale ?
Non, Nadine, c'est la maman d'un patient.
Ah, d'accord. Et elle nous écoute là, vous pensez ?
Oui, oula, elle vous écoute plus que moi, je pense.
Religieusement.
Alors, on fait un gros bisou à Nadine. Voilà. Bon, j'espère que vous êtes gentil avec Nadine, Romain.
Oh, il me semble. Bon. Elle me dira bien, comme elle écoute.
Alors, on vous écoute, bon. Romain. Qu'est-ce qui vous amène ce matin ?
Eh ben, écoutez, depuis quelques mois déjà, je suis intéressé par Tesla. J'ai été à deux doigts d'acheter la Model 3. Je suis allé l'essayer quand même, parce que c'est vrai, comme on dit, c'est le click and collect Tesla. Mais bon, j'ai quand même l'essayé et au final, je l'ai pas fait parce que trop basse. Trop basse pour mon activité, monter, descendre 50 fois par jour du véhicule, c'était pas possible. Et donc, j'ai vu qu'on devait sortir la Model Y, qui était sur la base de la Model 3, mais en version un peu SUV, un peu plus haute, quoi, bien sûr. Et comme ça traîne et que Tesla, ils ont toujours un peu de retard, enfin, c'est vrai qu'ils donnent une date et puis il y a toujours du retard. Je voulais savoir un peu, où c'en était, si vous aviez des infos là-dessus, une date de livraison, enfin, voilà.
Alors, Tesla est assez clair hein, sur ça. Hein. Ils disent vous savez qu'il y a une usine qui se construit à Berlin en ce moment.
Oui, voilà. C'est ça. Oui.
Une méga factory, parce que c'est pour ouais. Voilà. On a loupé le coche d'ailleurs. Elle aurait pu être construite en France cette usine, mais bon. Voilà. Vous savez, les conflits sociaux, ça nous a fait perdre beaucoup de choses. Hein.
Ah oui, ça.
Voilà. On peut pas. Je crois que les syndicats ont une part de responsabilité. Il faudra qu'ils l'assument un jour. Donc l'usine se construit à Berlin et cette usine, elle est prévue pour entrer en production là à la fin du printemps. Donc normalement, d'accord, les premières livraisons de modèle Y en France, c'est prévu pour juillet 2021. D'accord. Voilà.
Ah oui.
Donc il faudra, d'ici là, vous achetez un cochon, puis vous mettez des pièces tous les jours dedans. Bon, il faudra en mettre pas mal, hein, quand même, hein, parce que ça démarre à 63 000 euros en France, hein, le modèle.
Oui, mais c'est ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai vu, mais après, effectivement, dans mon calcul, avec mon activité de libéral, je fais quasi 60 000 km à l'année.
Ah oui, ça sera rentable. Ça sera vraiment rentable.
Ah non, c'est impressionnant. Et là, je suis déjà en électrique, là, parce qu'on s'était appelé une fois. Nous, on a à la maison, ma femme est libérale aussi. On a passé les deux voitures en électrique déjà. Donc, nous, on est 100% électrique.
Et
en fait.
Et vous roulez avec quoi, là ?
Je suis en Kia Niro, là.
D'accord.
Sous vos conseils, bien entendu.
Ouais, alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que c'est bien d'avoir des gens qui roulent au quotidien avec.
Écoutez, il est génial. Il est génial. La seule raison pour laquelle. Je m'en sépare, c'est parce que on est parti en vacances, deux trois coups à droite à gauche, et 50% de mes trajets, ça a été une horreur. Ça a été juste une horreur pour trouver une borne libre, une borne pas HS, qui charge vite, une borne machin. Donc un coup sur deux, ça a été nickel. Mais alors franchement nickel chrome. Et un coup sur deux, mais quand je vous dis la cata, c'est j'ai fait 450 000 km, j'ai 450 bornes en 12 heures. Et plusieurs, ça m'est arrivé deux, trois fois de faire 12 heures, 450 bornes.
Vous avez vu que depuis la semaine dernière, Kia et Hyundai adhèrent au réseau Ionity, donc vous aurez des tarifs qui seront un peu moins dispendieux que ce qui était proposé jusqu'à présent. Il y a aussi, alors vous n'êtes pas en région parisienne, mais a priori à Paris, c'est Total qui va reprendre les bornes, les anciennes
bornes Autolib,
et qui va mettre un peu de.
J'ai vu ça, mais à aucun moment ils parlent du coût.
Ils vont mettre un peu de professionnalisme là-dedans. Total, il faut signaler quand même, ils ont des stations-service qui proposent de la charge ultra rapide et des tarifs qui sont beaucoup plus intéressants que Ionity, par exemple.
Parce que le problème, c'est, si vous voulez, moi, ce que j'ai rencontré Ionity, je m'y suis arrêté, j'ai chargé en termes de coûts et nombre de kilomètres récupérés, ça
c'est
m'a
l'horreur.
Coûté plus cher qu'un
bah
plein
oui, mais
ouais,
évidemment, c'est l'horreur. Ouais. Pourquoi ? Parce que vous payez à la minute sur Ioniti.
Ah ouais, non, c'était une catastrophe.
Et en plus, à l'époque, donc, Kia faisait pas partie du consortium Ioniti, donc la facturation, alors, elle dépend de plein de choses, donc je sais même pas combien ça vous coûtait à la minute. Mais en plus, si vous étiez sur l'autoroute, votre voiture, elle est capable de prendre normalement 70 kW en charge rapide, mais 70 kW en charge rapide si la batterie est à la bonne température, etc. Donc si vous êtes sur l'autoroute, la batterie, elle est chaude, elle va pas prendre du 70 kW, elle va prendre que du 50, et là, vous payez quand même à la minute. Donc au moment où vous chargez, vous avez tout intérêt à avoir une Porsche qui prend de la charge ultra rapide plutôt que d'avoir une voiture qui prend que du 50 kW.
Et donc ce qui fait que moi au-delà du tarif, c'est aussi le temps passé, quoi. Comme
bah oui,
dites,
mais
moi,
évidemment,
je recherche
que
70 kW au max, et encore j'ai jamais vu les 70 kW, hein. Je suis resté à 48, 49,
mais c'est ce
50
que, exactement,
à tout casser.
Et c'est ce que je vous disais à l'instant, parce que votre batterie, elle est chaude. Vous prenez du 70 quand la voiture, la batterie, elle est à 20 degrés. Ah,
et c'est pour ça que vous voulez vous tourner vers la Tesla, alors, Romain, c'est pour ça.
Oui, exactement, parce que Tesla, c'est juste pas possible. Je veux dire, ils ont sorti des bornes à 250 kWh. Et en plus de ça, vous pouvez les prendre, parce que ça sert à rien de sortir des bornes si vous pouvez pas les charger au max. Mais ben, vous pouvez. Donc en fait, en 20 minutes, à tout casser, vous avez rechargé, je crois que c'est un quart d'heure 80%, et vous avez pour 25 ou 30 minutes tout cassé 100%, je crois, ou 20 minutes, enfin c'est vraiment ridicule. Vous avez à peine le temps de vous lever, de prendre un café, vous avez déjà chargé 100%. Ça vous a coûté 12 euros, parce que j'ai fait le calcul sur Tesla, ça vous coûte 12 euros. Des soucis que j'ai eu aussi par rapport à d'autres bornes, c'est vous arrivez, votre carte elle est pas reconnue, vous essayez de le faire avec l'application. Alors l'application fonctionne, mais la borne n'est pas reliée au réseau de l'application, donc au final
tout ça est très approximatif.
Ouais. Romain, vous appuyez là vraiment où ça fait mal. L'électrique demain, la catastrophe annoncée, c'est ça.
Ah oui.
C'est le réseau de recharge. Alors je dis rapide, parce qu'on n'en a rien à foutre, et je suis mal poli exprès, des bornes de charge lentes en voirie, on s'en fiche, quoi. On charge chez soi, on n'a pas besoin de bornes de charge lentes en voirie. Il faut du rapide ou de l'ultra rapide.
Quand je suis parti en vacances, y avait énormément de bornes à droite à gauche qui chargent à 3 kW ou à 7 kW.
On s'en fout.
Mais franchement, quand vous partez en vacances, 7 kW, vous n'allez pas rester dormir dans la voiture. Mais attendez, ça m'est arrivé. Mais attendez, vous rigolez. Ça m'est arrivé. Je vous dis, j'ai mis 12 heures pour faire 450 bornes. C'est qu'à un moment donné, j'ai été obligé, j'étais à zéro, j'avais plus rien, et j'étais obligé de me brancher sur une 7 kW. Il a fallu que j'attende 3-4 heures en pleine nuit à pioncer dans la voiture. C'est une catastrophe.
Romain, il faut qu'on avance, malheureusement. Alors, vous vouliez parler de la Tesla, la modèle
Y.
C'est bon, donc tout ça, c'est réglé.
Juillet
prochain.
Je crois qu'on est pas mal.
Super. Okay. Merci Romain, bonne journée, au revoir.
Allez, derrière, au revoir.
Et bonne journée à Romain, mais c'est vrai que, voilà, on appuie là où ça fait mal, hein, les bornes.
Ah non,
ça,
mais
c'est clair.
C'est pas faute de le dire depuis des années, en plus, hein.
Jean est avec nous au 32-16. Bonjour Jean.
Bonjour Jean. Bonjour François, bonjour Jean-Luc. Félicitations pour vos émissions du week-end, dans tous les cas. C'est toujours un pur bonheur de vous écouter.
Ben c'est gentil à vous d'être là et d'être
fidèle.
Alors
moi, je vous appelle, c'est en fait au sujet d'une usurpation de plaque d'immatriculation.
Aïe.
Parce qu'en fait, j'ai reçu le 30 octobre, donc un avis de contravention pour excès de vitesse, à la date donc du 6 octobre à 9h49.
Oui.
Or, à cette heure-là, j'ai effectué une sortie à vélo avec deux amis dans la commune avoisinante, Mont-de-Poussil. J'ai entendu que j'étais victime d'une doublette ou d'une usurpation de plaque d'immatriculation. Donc, j'ai tout de suite effectué en ligne sur le antai.gouv un dossier de contestation d'infraction.
Oui.
J'ai demandé la photographie du véhicule flashé et puis, bien entendu, versé une consignation du montant de l'amende forfaitaire, soit 135 euros.
D'accord. Il faut le déposer plainte également, hein.
Alors, le lendemain, j'ai été au commissariat de police.
Et ils vous ont refusé la plainte.
Voilà, ils m'ont refusé la plainte.
Ils n'ont pas le droit, et on en a déjà parlé avec Rémi, Jossot, ils n'ont pas le droit de refuser la plainte.
Alors, mais
donc vous demandez à parler au commissaire.
Non, mais j'ai l'impression que je l'ai dérangé, en fait.
Oui, mais c'est ça, c'est ça. Mais vous dites, je ne partirai pas tant que vous n'avez pas enregistré ma plainte.
Alors, vous savez, je suis retourné une semaine après, parce que j'ai pas reçu mon dossier, et je suis retourné. Alors, pareil, je suis tombé sur un jeune agent de police. Il m'a dit, non, vous inquiétez pas, vous allez être convoqué.
Oui, bien sûr. Non, il faut absolument un dépôt de plainte.
Oui, ben voilà, parce que le souci, moi, c'est que l'usurpateur, il est capable de récidiver.
Sans doute,
69 pour une route limitée à 80, donc ça fait 39 moins 5 km heure, donc ils ont retenu 100 près, je crois. Et donc le souci, c'est que je suis à même d'avoir demain une nouvelle...
Bien sûr.
Alors, parallèlement, évidemment, il faut donc changer. Alors, on m'a dit qu'il fallait que je change la carte grise, mais tant que j'ai pas la photo du véhicule, parce que est-ce qu'il n'y a pas une mauvaise interprétation de la plaque?
Oui, alors la photo, est-ce que vous...
Un X avec un Y.
Est-ce que vous allez la recevoir, la photo également? Il y a ça aussi, hein, parce que...
Alors ça, je l'ai demandé dans la foulée. Donc, alors, j'avais fait une fois pour une, malheureusement, pour un feu que j'avais passé à l'Orange cet été, là. J'ai reçu la photo dans les 15 jours, hein.
D'accord. Mais le feu à l'Orange, vous avez été verbalisé par un radar automatique pour un feu
à
l'Orange.
Voilà, alors je suis passé Orange. Bon,
oui, Orange foncé, quoi.
Évidemment, la photo, c'était rouge. Hein,
et, oui.
Ouais. Voilà. Et vous avez perdu des points?
Ah ben, j'ai perdu 4 points.
Ah ben, le feu rouge grillé, c'est 4 points. Hein.
Ouais. Donc j'avais 12, là j'étais à 8, donc vous voyez, 8 moins 3, là il me reste 5.
Ah hein. Sur l'usurpation, il ne faut pas vous laisser faire.
Non, puis de toute façon, j'ai des témoins, donc comme j'étais accompagné par... Par un doublon de vélo.
Oui, faites-leur faire une attestation sur l'honneur.
Donc Jean-Luc, quand ça arrive, ça a porté plainte tout de suite.
Ah oui, il faut porter plainte. Voilà, oui, c'est ça. On l'a évoqué avec Rémi plusieurs fois. Oui. Et effectivement, ils refusent parfois de prendre votre plainte. Ils n'ont pas le droit.
Merci beaucoup Jean pour votre appel. Et avant de retrouver la météo, les infos de 8h sur RMC, l'actu de la semaine dans le monde de l'automobile, et on va parler des compteurs trafiqués. Jean-Luc, le hit parade est très défavorable aux véhicules allemands.
C'est la société internationale Car Vertical, qui est spécialisée dans la vérification de l'historique des voitures d'occasion, qui vient de publier ce classement édifiant. Tout d'abord, on y apprend que plus de, tenez-vous bien, 200 millions de véhicules sont concernés dans le monde par une falsification du kilométrage, et ce sont les voitures allemandes qui sont les plus concernés. BMW occupe ainsi les 6 premières places. Audi, Volkswagen et Mercedes complètent le top 10. Les Français ne font pour une fois pas partie des mauvais élèves. En ce qui concerne les pays champions du monde du bidouillage des compteurs, la Roumanie arrive en tête avec une proportion de 11,50%. La France est en avant-dernière position.
Tiens.
Ah oui, avec 3,08% de véhicules au compteur trafiqué, ce qui est plutôt là aussi une bonne nouvelle. Hein.
C'est plutôt pas mal.
Ouais, c'est bien.
Les vieux diesels, Jean-Luc, auront un sursis pour circuler dans le périmètre du Grand Paris.
Bah, initialement, les véhicules munis d'une vignette critère 4, c'est-à-dire les diesels mis en service entre janvier 2001 et décembre 2005, devaient être interdits à la circulation en semaine, de 8h à 20h, à partir du 1er janvier 2021, dans le périmètre situé entre le périphérique et la 86, hein, puisque vous savez que les critères 4 sont déjà bannis de la capitale. Vu la conjoncture, les élus du Grand Paris ont jugé plus sage de reporter cette mesure au 1er juin 2021. Alors pour être franc, hein, la vraie problématique, c'est qu'à ce jour, il n'existe aucun moyen efficace de verbaliser les contrevenants.
Parce qu'il doit y en avoir beaucoup,
ben oui,
forcément.
On peut estimer donc que ce report est destiné à attendre la mise en place du contrôle automatisé relatif au respect des zones à faibles émissions. Il arrive, ce contrôle automatisé.
Jean-Luc, on va revenir après la météo et les infos de 8h. Et pour notre deuxième partie de ce rendez-vous auto, nous retrouverons Céline Kastner pour notre rendez-vous à faire casser, l'essai de la semaine, la Skoda Superb 4 hybride rechargeable, et puis bien sûr vos questions auto. Profitez-en, 32-16, l'appli RMC Direct Studio. Le temps de retrouver la météo et les infos, et on est de retour sur RMC. À tout de suite.
RMC jusqu'à 10h.
Votre auto.